Alors, frères et sœurs, ce matin, je vous propose d'ouvrir notre Bible dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 13 à 17. On va le lire ensemble, pour que ceux qui ont une Bible n'hésitent pas à l'ouvrir. Donc, Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors ces versets, je pense que la majorité d'entre vous les ont déjà entendus, les ont déjà peut-être sûrement lus. Des versets qui nous parlent de l'avenir, de nos projets, des projets que les hommes font, sur la manière aussi dont l'homme se confie en eux, en leur bien. Des versets écrits il y a bien longtemps donc, mais qui sont pourtant toujours actuels. Tout le monde aujourd'hui encore a fait des projets. Les gens disent ce qu'ils feront aujourd'hui, demain, dans un an, peut-être même encore plus loin. Et quel est le mal à cela ? Ne peut-on pas avoir des projets ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais commencer par revenir au début de ce texte en gardant à l'esprit, en fait, cette première question aussi. Quel avenir visons-nous ? Alors à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Le texte ne nous dit pas explicitement à qui Jacques s'adresse. Peut-être étaient-ce des marchands prospères, des hommes ou des femmes qui voulaient ou alors le devenir. On ne sait pas en effet qui étaient ces personnes, mais on sait quand même certaines choses sur elles. On sait par exemple que ces personnes pensaient que tout était à leur disposition. Nous irons, nous y passerons, nous trafiquerons, dans d'autres traductions on a « nous ferons des affaires », nous gagnerons. Une succession d'actions qui s'enchaînent, apparemment avec facilité. Mais un homme peut-il penser qu'il peut faire ce qu'il veut et que tout se passera comme il le désire ? Qu'il lui suffit de prendre une décision et de décider de faire exactement ce que son esprit lui suggère et cela va suffire ? N'y a-t-il pas après tout quelqu'un de plus grand que nous ? On l'a chanté ce matin. N'existe-t-il pas une puissance supérieure qui peut influencer, voire nous arrêter dans nos projets, dans notre vie ? N'avons-nous pas besoin de demander le consentement de Dieu pour ce que nous souhaitons faire ? Eh bien, ceux à qui Jacques s'adresse ne le savaient pas ou, en tout cas, l'avaient oublié, ou ne voulaient pas l'entendre. Ils ont oublié que tout n'est pas à leur disposition, mais que le Seigneur est roi sur tous les éléments, pour toujours et à jamais. Ces hommes et ces femmes ne pensaient pas à demander la bénédiction divine, ni à implorer l'aide de Dieu, tout simplement parce qu'ils estimaient ne pas en avoir besoin. Leur propre force suffirait. Et voilà ce que nous savons aussi sur eux. Ils étaient sûrs d'eux, remplis de confiance en eux-mêmes. Les paroles, encore une fois, qui sont écrites ici, nous montrent une grande assurance. Nous irons, nous ferons. Il n'y a pas de doute dans ces mots. Leurs efforts, leur intelligence suffiraient pour mener à bien ce qu'ils avaient prévu de faire. Un avenir sans l'ombre d'un doute, grâce à leurs propres capacités. Ils ne savaient rien de demain, mais tout leur semblait certain. Alors pourquoi demander de l'aide, chercher le conseil de Dieu, si nous sommes convaincus que nous pouvons avancer par nous-mêmes et que rien ne peut nous arriver ? Mais quel orgueil de penser cela ! Et pourtant, est-ce que cela ne nous arrive jamais de nous aussi, penser que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que tout se déroulera comme nous l'avons prévu, comme nous le souhaitons ? Si je dois répondre à cette question, pour ma part, je dirais que ça m'arrive bien trop souvent même, de m'appuyer sur moi-même. La troisième chose que nous savons aussi est que ces gens, alors qu'ils pensaient donc que tout était à leur disposition, qu'ils avaient la force suffisantes en eux-mêmes pour tout réussir, eh bien ils utilisaient tout et dirigeaient tout pour des choses du monde. Leur seul but semblait être vouloir obtenir de l'argent, en obtenir suffisamment pour leur faire sentir qu'ils étaient riches, qu'ils étaient des personnes importantes. Voilà probablement leur plus grande ambition. Dans tout ce projet, y a-t-il eu un seul mot pour Dieu ? Ont-ils dit « nous ferons aujourd'hui ou demain telle ou telle chose pour la gloire de Dieu, pour l'extension du royaume ?» Non. Leur pensée était tournée uniquement vers leur succès terrestre, l'argent ou une bonne position. Et si nous y prêtons attention, n'est-ce pas toujours le cas aussi pour la majorité des hommes aujourd'hui ? Les gens ne vivent-ils pas encore aujourd'hui dans le seul but que leurs efforts leur permettent d'obtenir un gain, que ce soit de l'argent, une certaine gloire, un plaisir ? C'est vraiment la pensée du monde encore aujourd'hui vers laquelle le monde veut nous entraîner. Et face à cette pensée, Jésus nous a donné aussi une parabole que je vais relire, qui se trouve dans Luc au chapitre 12, qui est bien connue également et qui dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà quelle a été la réponse de Dieu. « Insensé, ta vie te sera reprise. » Et c'est ce que Jacques veut nous dire aussi dans ce verset qui suit, le verset 14. Nous ignorons tout de notre lendemain. Le verset dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Jacques veut que nous comprenions que, oui, l'avenir est incertain. Ce verset fait aussi écho à un proverbe au chapitre 27 qui est « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » On pense savoir ce qui nous attend, mais nous ne contrôlons rien. Alors comment savoir ce qui se passera demain ? Nous sommes constamment surpris par les événements qui se produisent autour de nous. Et je vais reprendre une petite phrase que j'ai pu lire dans un commentaire de Charles Spurgeon qui disait « Comment pouvons-nous compter sur quoi que ce soit dans un monde comme celui-ci, où rien n'est certain que l'incertitude ?» Et c'est un fait. Nous ne savons rien du futur ni de l'avenir. Nous ne pouvons pas prédire s'il nous arrivera chargé de maladie ou de bonne santé, de richesse ou de pauvreté, de joie ou de moments d'adversité. Et demain marquera peut-être même la fin de notre vie, peut-être même la fin des temps. Nous ne sommes maîtres de rien et nous ignorons tout. Seul Dieu connaît l'avenir. Dans le même commentaire que celui que je viens de citer, Charles Spurgeon disait aussi « Toutes choses, lui, sont présentes. » Donc, il parlait de Dieu. « Il n'y a ni passé ni avenir à ses yeux qui voient tout. Il demeure toujours au présent comme le grand « Je suis ». Il sait ce qui se passera demain et lui seul le sait. Les hommes ne savent pas ce qui va arriver demain, mais lui connaît la fin depuis le commencement. Et si nous ne l'avons pas encore compris, on peut encore poursuivre avec la suite du verset 14, hein. Où Jacques renforce encore cette idée en nous disant « Mais qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alors oui, voilà la réalité de notre vie terrestre, une vie fragile, brève, une vapeur, un souffle, une vie qui dure pour un instant, une vie éphémère. Nos jours ne sont qu'une ombre, nous dit également Job. La vie est courte, qu'elle dure 20 ans ou 100 ans. Regarde l'éternité, ce n'est rien du tout. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. C'est le psaume 39, versets 5 à 8. Notre espérance est dans le Seigneur. Et pourtant, au lieu de vivre dans un avenir éternel, où il pourrait composer avec des certitudes, les hommes continuent à vivre dans un avenir plus immédiat, où il ne peut y avoir que des incertitudes. Et le monde sait pourtant très bien que la vie est courte. Carpe diem, qu'on peut traduire en français par « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain », ou encore même l'expression « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ces deux expressions nous montrent très bien que le monde le sait, que la vie est courte. Le monde va toujours, pour autant, chercher à s'aveugler. S'aveugler dans un bonheur éphémère pour ne pas y penser. Et c'est aussi une tactique de l'ennemi de nous entraîner là-dedans, pour nous éviter nous aussi d'y penser, de nous poser les bonnes questions. Oui, profitons du moment présent, tirons-en toutes les joies possibles, sans s'inquiéter du jour de notre mort. Très bien. Mais qu'arrivera-t-il justement après notre mort ? Après cette vapeur, cette vie si brève ? Oui, pensons-y, frères et sœurs. Voulons-nous que nos projets comptent pour l'éternité qui nous attend. Et si nous le voulons, alors quelle attitude devons-nous adopter pour demain, et déjà même aujourd'hui? Eh bien, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Frères et sœurs, dans votre vie, vous mettez-vous entièrement à la disposition de Dieu? Et si je vous pose cette question ce matin, c'est parce que bien souvent nous gardons un peu de nous-mêmes dans nos projets, voire même peut-être parfois beaucoup de nous-mêmes. Nous ne capitulons pas pleinement devant la volonté de Dieu. Pourtant, si Dieu le veut, ces quelques mots ne sont pas une simple phrase à répéter, mais bien une attitude de cœur à avoir constamment. Une attitude qui va à l'encontre de notre propre nature pécheresse. Mais une attitude que nous pouvons adopter en imitation à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a lui-même adopté de manière parfaite. Il nous a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oui, Christ comme modèle pour nous. Christ qui a fait la volonté de son Père, de notre Père, et qui, par cette obéissance parfaite, nous permet aujourd'hui aussi d'être capable d'obéir à Dieu, de suivre sa volonté et non la nôtre. Alors oui, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette phrase nous indique aussi une chose, c'est qu'en tant que chrétien, nous pouvons et même nous devons faire des projets. Mais des projets à condition que ceux-ci soient placés donc sur les bonnes priorités, celles que Dieu a pour nous. Nous ne devons pas chercher à nous enrichir, à jouir de plus de biens matériels, comme ces hommes à qui s'adressaient les premiers versets tout à l'heure, mais nous devons toujours dire ceci. Je ferai ceci, je ferai cela, à condition que je vois que cela est conforme à la volonté de Dieu et à l'Évangile. Il ne s'agit pas de mettre en avant ou de chercher à développer nos propres intérêts, mais bien de nous inscrire pleinement toute notre vie, tous nos projets, dans la volonté de Dieu. Nous confier en Dieu. Voilà ce qui nous est demandé par ces mots, si Dieu le veut. Tout remettre entre ses mains. Alors oui, la vie est courte, on l'a vu, on l'a dit, courte au regard de l'éternité. Et pourtant, on se dit souvent que nous avons le temps. Le moment présent paraît important et le ciel lointain, voire impalpable. Mes frères et sœurs, l'éternité est-elle à une éternité d'arriver ? Quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pensons-nous vraiment que l'éternité est loin et qu'elle n'arrivera jamais ? Parfois, pour des raisons de santé, d'âge, l'éternité peut sembler plus proche et plus réelle à certaines personnes. Mais quelle que soit votre situation, puis-je me permettre de vous demander ce matin, Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à votre place au ciel? Quand avez-vous eu une vision éternelle dans vos projets? Et malheureusement, nous sommes nombreux à oublier qui nous sommes, à regarder cette vie, à la vivre comme s'il n'y avait rien d'autre après ou comme encore une fois si on avait le temps. Mais si nous regardons, réfléchissons à l'éternité, cela nous rappellera combien notre vie terrestre ne constitue qu'une partie infime de notre existence tout entière, que tout ce qui est ici sur la terre est temporaire. L'éternité nous rappelle qu'il est sage de réfléchir à l'avenir afin de savoir si celui-ci est un sujet d'angoisse pour nous ou s'il est la promesse de l'espérance glorieuse du salut en Christ. Et notre réponse à cette question est cruciale car elle changera radicalement notre manière de vivre au présent. Soit nous vivrons comme le monde, soit nous chercherons à vivre comme le Seigneur le souhaite, comme des serviteurs fidèles et prudents, qui se tiennent prêts pour le retour de leur maître. Alors oui, en attendant son retour, frères et sœurs, et dès à présent, je vous invite à vivre ainsi, à vivre en plaçant vos projets sous la volonté de Dieu, en suivant ses plans pour vous. Et soyez confiants, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 20, chapitre 16, verset 9. Dieu est un Dieu de sagesse, qui sait ce qui doit arriver et quand cela doit arriver. Dieu est un Dieu d'amour, qui ne veut que le meilleur pour nous. Et qui mieux que notre Créateur peut savoir ce qui est le mieux pour nous? Lui, qui nous connaît mieux que quiconque. Lui qui va jusqu'à connaître le nombre de nos cheveux. Lui, notre Dieu, qui est aussi celui qui gouverne donc sur toutes choses, et qui est donc le seul qui peut accomplir pleinement les plans qu'il a pour nous. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les enfants connaissent souvent aussi ce proverbe, il y a un chant aussi qui permet de le retenir. Et oui, rien n'arrive si Dieu ne l'a pas voulu. Même les petites choses de la vie ne sont pas négligées par celui qui voit tout. Toutes choses sont réglementées, toutes choses ont une place désignée dans le plan de Dieu. Alors reconnaissons l'œuvre du Seigneur dans nos vies et inclinons-nous devant lui humblement en disant pour toutes choses, si Dieu le veut. N'élaborons donc pas des plans comme s'ils n'existaient pas, parce que c'est bien lui qui décide de l'avenir. Et ce qui est dangereux, mauvais pour nous, n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais c'est plutôt de ne pas la faire. Si nous faisons la volonté de Dieu, ayons confiance en demain. Car alors nous savons que c'est lui qui nous conduit. Et l'endroit le plus sûr au monde, c'est celui où Dieu veut que nous soyons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui, c'est que nous vivions jour après jour en lui disant « Enseigne-nous, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je m'applique, que j'applique mon cœur à ta sagesse. » Psaume chapitre 90, verset 12. Cette sagesse qui nous vient de la parole de Dieu. Parce que par sa parole, Dieu nous donne des préceptes, des principes, des promesses pour nous guider dans tous les domaines de notre vie. Et encore une fois, et malheureusement, beaucoup l'ignorent, beaucoup ne veulent pas entendre cette parole, ne veulent pas se confier en elle. Alors, frères et sœurs, ne faites pas comme ces personnes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Oui, ne nous laissons pas entraîner par les pensées du monde, qui vite pourraient nous entraîner vers cette voie de la réussite terrestre qui ne causera en réalité que notre perte. Mais confions nos projets à Dieu, et il les utilisera pour que nous soyons à son service. Il nous aidera à utiliser ce qu'il nous donnera, que ce soit peu ou beaucoup, pour lui rendre gloire, en aidant notre prochain, en travaillant à son œuvre, à l'agrandissement, à l'édification de son Église, au partage de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui est que Christ est venu sur cette terre pour nous, pour mourir sur la croix, pour prendre ainsi sur lui notre péché, pour satisfaire à la justice de Dieu. Et aujourd'hui, il est vivant, il est ressuscité. Il est au ciel, en attendant le jour de son retour, de l'établissement final et parfait de son royaume. Alors oui, si nous plaçons avec chacun de nos projets cette pensée, si Dieu le veut, nous pourrons accomplir la volonté de Dieu dans le salut des hommes, pour que le peuple du Seigneur soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors soyons confiants, mais soyons aussi rassurés. Parce que parfois nous, nous trouverons en dehors de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Mais soyons rassurés parce que, souvenons-nous alors de ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Un échec dans notre mise en pratique de la volonté de Dieu n'affecte jamais de manière permanente notre relation avec Dieu. Nous apprenons, nous continuerons d'apprendre au travers de nos erreurs, mais nous pouvons confesser nos péchés et recevoir le pardon. L'important est d'avoir un cœur qui aime Dieu et qui veut sincèrement faire sa volonté et glorifier son nom. Ayons confiance en Dieu, pour qu'il ajuste également les circonstances pour nous ramener, nous, ses enfants, dans sa volonté, comme il l'a fait aussi pour Jonas, par exemple. La relation du croyant par rapport à la volonté de Dieu, c'est une relation de croissance. Faire sa volonté renforcera notre relation avec Dieu, la rendra plus profonde. Si nous voulons lui obéir, si nous sommes prêts à lui obéir, alors il nous révélera sa volonté et nous aidera à la comprendre et à la vivre. À la vivre comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. C'est en plaçant nos projets ainsi dans la volonté de Dieu que nous pourrons le servir, oui. Non à contre-cœur, non par devoir, mais avec joie, de tout notre cœur. Nous en trouvons ainsi enrichis éternellement. Pour le monde, obéir à la volonté de Dieu est un peu comme une chaîne qui nous garderait prisonniers, qui nous empêcherait de nous épanouir. Et peut-être que certains chrétiens le voient aussi un peu parfois ainsi. Mais en réalité, obéir à la volonté de Dieu est une bénédiction pour notre vie. En nous soumettant à la volonté de Dieu, nous aurons toujours la certitude d'être sur le chemin qui nous permettra d'être bénis de Dieu, de notre Père, et de prendre possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu chapitre 25. Alors, je vais terminer en m'arrêtant encore quand même sur le verset 17, qui dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Ce dernier verset qui nous est laissé témoigne d'un orgueil encore plus important que celui des premiers versets. Ici, ceux à qui cela est adressé sont ceux qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui choisissent de lui désobéir ou de ne pas la suivre. Sur les premiers versets, on ne sait pas peut-être, les gens en faisaient des projets, mais on ne sait pas quels étaient leurs connaissances. Eh bien, agir ainsi nous rend d'autant plus coupables. Si nous ne mettons pas en pratique ces vérités, la volonté de Dieu, nous commettons un péché. Et pourquoi les gens refusent de lui obéir? Refusent justement ou ne font pas ce qu'ils savent être bien? Tout simplement parce que beaucoup voient la volonté de Dieu aussi comme quelque chose qu'ils peuvent accepter ou refuser, comme une option. Une option devant eux. Mais en réalité, la volonté de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Alors c'est pourquoi nous devons lui obéir. Il est le Sauveur, notre Seigneur, et nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça aussi que nous devons lui obéir. Alors ne prenons pas à la légère la volonté de Dieu, sous peine d'attirer le châtiment de Dieu sur nos vies. Ce verset a été écrit au présent. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Cela signifie que celui qui sait ce qu'il doit faire et ne le fait pas, immédiatement, c'est un péché. Ne pensons pas que nous pourrons faire la volonté de Dieu bientôt. obéir à Dieu, c'est maintenant. Et si vous dites « je vais me repentir », votre devoir est de vous repentir maintenant. Si vous dites « je vais croire », bientôt. Jésus nous dit « croyez maintenant ». Et ne pensez pas que vous pourrez rattraper, compenser ce report par un effort futur. Parce qu'il est bien dit, hein, celui qui ne le fait pas commet un péché. Ce n'est pas celui qui ne le fera pas commet un péché. Parce que c'est bien maintenant qu'il nous faut obéir au commandement de Dieu. Et c'est ainsi qu'un chrétien devrait toujours vivre. Vivre en regardant non pas vers des projets dans un avenir lointain qui ne se réaliseront peut-être jamais, mais vers quelque chose à faire maintenant pour le Seigneur. Nous l'avons vu ce matin aussi, le temps presse, nos opportunités passent. Notre vie est une vapeur qui est là pour peu de temps et qui disparaît. Alors oui, c'est aujourd'hui qu'il nous faut suivre l'Éternel, qu'il nous faut vivre pour Dieu. Je vais vous lire le dos d'un feuillet du calendrier de la Bonne Semence. Alors je ne sais plus de quand il date. Je l'avais gardé, j'ai pris une photo en fait de l'arrière. Mais je trouve qu'il va bien avec cette réflexion aussi. Le feuillet indiquait ceci. Un jour avant la fin. Un incendie avait détruit plusieurs maisons du village et plongé quelques familles dans la désolation. On ignorait la cause du sinistre. Mais on savait que la pompe de la commune n'avait pas fonctionné. Le maire avait pourtant cru bon d'afficher une proclamation énergique. Prière de nettoyer la pompe avant chaque incendie. Cette naïveté, bien sûr, fait sourire. Mais en contraste, cela me rappelle le sage conseil d'un chrétien âgé qui pressait ses jeunes auditeurs d'accepter Jésus-Christ comme sauveur pour être prêt à rencontrer Dieu. « Quand faut-il se préparer ?» demanda l'un d'eux. « Un jour avant votre fin suffirait. Mais comme personne ne peut prédire le jour de sa mort, réglez cette question aujourd'hui, tout de suite. » Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Je suis pécheur aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus veut me sauver. Demain, c'est le mot de l'insouciance, de l'indifférence, du virtuel. Vous ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Alors n'attendez pas demain. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Sa grâce est un libre don. Il jugera le rebelle qui refuse son pardon. Reviens au Dieu qui pardonne et tu trouveras le bonheur. Dieu ne repousse personne. N'est-il pas le Dieu sauveur ? Alors avec tout ceci, frères et sœurs, ce matin, avec ces quelques versets que j'ai voulu lire avec vous, je vais aussi vous laisser avec cette réflexion. Comment réagiriez-vous si Dieu intervenait aujourd'hui dans vos projets, en cours ou à venir, et les remaniait d'une manière qui n'était pas celle que vous aviez prévue ou que vous aviez souhaitée? Seriez-vous encore une fois capable de dire à ce moment-là, si Dieu le veut? Alors oui, que le Seigneur nous bénisse, nous aide, vous et moi, à le servir pleinement. Et à écrire cette clause, ces quelques mots, si Dieu le veut, dans tous nos projets, dans toute notre vie, en nous rappelant toujours aussi que nous lui appartenons et qu'il est un guide bon et juste à qui nous devons fidélité, honneur et gloire. Amen.